Laudetur Jesus Christus.
Restrictions sanitaires et malaise social, une formule chimique explosive dans les Antilles françaises, notamment Guadeloupe, c'est la une de ce journal. Les Pays-Bas aussi ont connu des heures violentes ces derniers jours. Le calme est revenu, mais il reste incertain. Reportage à La Haye dans un instant. Dans ce journal encore, l'Égypte, qui aurait détourné une aide militaire française pour cibler des trafiquants, c'est ce que révèle l'enquête d'un média d'investigation. Et puis focus sur le centenaire de la cathédrale de Rabat, inaugurée en 1921. Son curé nous parlera de cet édifice qui élève vers Dieu tout en réunissant croyants catholiques et musulmans de la capitale marocaine.
Radio Vatican, le journal, Manuela Figi.
Bonjour à tous. Situation éruptive donc en Guadeloupe, secouée depuis une semaine par de violentes émeutes urbaines dans le sillage de manifestations contre l'obligation vaccinale. Les autorités de Paris s'inquiètent de la tournure des événements. Le président Macron a appelé au calme et son premier ministre a échangé hier soir avec des élus de l'île française, oscillant entre fermeté et volonté de dialogue. La correspondance régionale de France Emmanuel.
Difficile de parler de climat plus serein à Pointe-à-Pitre, les Guadeloupéens, en plus des barrages sur les routes, doivent désormais composer avec un arrêté préfectoral limitant à 20 litres par prise la quantité de carburant pouvant être achetée. Il faut dire que le ravitaillement des stations-service est devenu très compliqué avec les nombreuses barricades un peu partout dans l'île. Autre point de crispation, cette information à peine abordée par les autorités en ce début de semaine, un local de la douane a été braqué avec des ravisseurs qui sont partis avec des armes et des munitions. Toutefois, la journée d'hier a été moins agitée que les précédentes. Reste à voir maintenant comment seront perçus les propos de Jean Castex à l'issue de sa rencontre avec les parlementaires de la Guadeloupe. Le Premier ministre français a dit deux choses. La première, pas question de remettre en cause l'obligation vaccinale pour les personnels soignants de Guadeloupe, ni à Pointe-à-Pitre, ni ailleurs. Et deuxièmement, qu'une commission verra le jour pour discuter avec les 1400 personnes toujours hostiles aux injections anti-Covid. Quant aux exactions commises partout sur la Guadeloupe, tout comme le président de la République, le chef du gouvernement les a tout simplement condamnés. Front de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
Et la colère est forte aussi en Martinique, justement, où une grève générale a été lancée hier autour de mêmes revendications. Et là aussi, sur fond de crise sociale et de cherté de la vie, les syndicats ont appelé hier soir à un renforcement de la mobilisation ce mardi, ainsi qu'à une manifestation contre la Transat Jacques Fabre qui doit arriver à Fort-de-France. Colère et pillage en Guadeloupe, mais aussi dans le nord de l'Europe, notamment aux Pays-Bas. En fin de semaine, des milliers de personnes ont manifesté contre l'ensemble des mesures de restriction réintroduites la semaine dernière. Résultat, des bandes de jeunes sont descendues dans la rue après le départ des manifestants pendant 3 jours. Ils ont détruit du mobilier urbain et des voitures, jeté des pierres et tiré des feux d'artifice contre la police. Aujourd'hui, les villes touchées pansent leurs plaies. Le reportage à La Haye de Pierre Benazé.
Dans le populaire quartier des Peintres, à La Haye, les cafés ont nettoyé les traces des violences de samedi. Dani est solidaire des cafés où elle a travaillé toute sa vie et elle est atterrée par la violence des émeutiers.
C'est un scandale, ce n'est pas normal que des gens se comportent ainsi. Mais bon, certains y vont pour l'émeute, mais il y en a quand même beaucoup qui y sont allés parce qu'ils en ont marre.
Roule, lui, attend son 3e vaccin. Il trouve que le gouvernement n'a jamais été très clair avec ses mesures.
Nous sommes de temps en temps un peu trop laxistes avec nos mesures et souvent en retard. Mais autant je ne comprends pas cette violence, autant chacun a le droit de manifester et de refuser le vaccin.
De son côté, le Premier ministre Marc Rutte promet de sévir contre les émeutiers.
Ce que je n'accepterai jamais, c'est que des idiots utilisent de la violence gratuite contre des gens qui travaillent tous les jours pour vous et moi à assurer la sécurité du pays sous prétexte qu'ils sont mécontents.
Ariane a manifesté samedi contre les mesures sanitaires. Il a continué ce lundi tout seul la manifestation dans les rues de La Haye avec une petite affiche.
Notre gouvernement forme 5000 personnes pour contrôler les codes du pass Covid au lieu de donner cet argent aux soignants. Ce gouvernement met à mal l'état de droit sous couvert de motifs sanitaires pour mettre en place un état gendarme.
Et pour la première fois depuis des décennies, la police néerlandaise a tiré vendredi soir à balles réelles sur des émeutiers. Pierre Benazel a est RFI pour Radio Vatican.
La reprise épidémique se confirme dans plusieurs pays d'Europe au point que les États-Unis déconseillent à leurs ressortissants de se rendre au Danemark et en Allemagne. L'Allemagne où la situation est jugée hautement dramatique en termes de contagion. Pour Angela Merkel, les restrictions actuelles ne sont plus suffisantes. En Afghanistan, les sanctions économiques causent d'immenses souffrances parmi la population. Ce cri de colère vient du chef de la Croix-Rouge qui s'est rendu sur place et a pu constater de visu le drame de millions d'Afghans au bord de la famine, car en plus de la crise économique, le pays connaît des pénuries de nourriture en raison de la sécheresse. Rappelons que les institutions internationales ont arrêté leur aide au pays depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. La Jordanie et Israël, toujours plus avant sur la voie de la coopération. Les deux pays ont signé un accord d'ampleur hier. En pratique, le royaume hachémite s'engage à fournir l'État hébreu en énergie solaire et en échange, Israël lui livrera de l'eau désalinisée. Ce projet est le plus important entre les deux voisins depuis la paix signée en 1994. Plus d'un an après l'explosion du port de Beyrouth, la Russie a donné au Liban des images satellites du site avant et après le drame, disant espérer que ces documents puissent faire progresser l'enquête. C'est la thèse de l'accident qui reste aujourd'hui privilégiée. C'est une enquête qui embarrasse la France. Une aide militaire de Paris, destinée à l'Égypte afin de lutter contre le terrorisme, aurait été détournée par le pouvoir égyptien pour bombarder des civils dans l'ouest du pays au nom de la lutte contre la contrebande. Paris a demandé l'ouverture d'une enquête. Olivier Bonnel.
C'est le média d'investigation en ligne Disclose qui fait ces révélations. Le site d'enquête a eu accès à des documents classés confidentiels défense. Tout commence le 13 février 2016, quand 4 militaires et 6 civils français de la DRM, la direction du renseignement militaire, ainsi qu'un avion de surveillance sont déployés sur le sol égyptien. L'opération est baptisée Sirli. Le Caire avait prétexté vouloir lutter contre les groupes terroristes venant de la frontière libyenne, mais il s'agit en fait de lutter contre les nombreux trafics dans le désert occidental égyptien. Après les premiers vols de reconnaissance effectués par les Français, plusieurs pick-up sont détruits par des missiles égyptiens. Les membres de la DRM envoyés en Égypte vont plusieurs fois alerter leur hiérarchie à Paris, explique encore le site dans son enquête, mais sans succès, précisant à leurs supérieurs que la problématique terroriste n'avait jamais été abordée par les Égyptiens, ce qui montre bien le détournement du renseignement militaire français. Selon Disclose, la France pourrait être impliquée dans 19 bombardements contre des civils entre 2016 et 2018. Suite à ces révélations, la ministre des Armées, Florence Parly, a demandé l'ouverture d'une enquête. L'Égypte, elle, n'a cessé de renforcer ses liens militaires avec Paris. En témoigne la commande par le Caire de 30 avions Rafale au printemps dernier.
Olivier Bonnel. La Colombie célèbre demain les 5 ans de l'accord de paix signé en 2016 entre le gouvernement et la guérilla des FARC. Le pays reçoit pour l'occasion la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui salue un exemple pour le monde. Il faut dire cependant que la violence persiste dans certaines régions où sévissent des dissidents des FARC et d'autres groupes armés, dont des narcotrafiquants. Après sa cuisante défaite aux élections de dimanche, l'opposition au Venezuela essaie de temporiser. Son leader Juan Guaido estime qu'il est injuste de parler d'échec, car l'élection était viciée, dit-il. Constat partagé par les États-Unis qui évoquent des résultats faussés pour des élections ni libres ni justes à leurs yeux. C'était le dernier survivant de la communauté de Tibérine en Algérie. Le frère Jean-Pierre Schumacher s'est éteint au Maroc dimanche à l'âge de 97 ans. Le père Jean-Marie Lassos est prêtre de la mission de France depuis 40 ans. Il a rejoint Tibérine en 2001 à l'appel de l'archevêque d'Alger. Il y a vécu jusqu'en 2016. Lui a bien connu le frère Schumacher, son frère de mission en terre musulmane. Depuis sa communauté de Mostaganem dans le nord de l'Algérie, il nous raconte comment le frère Jean-Pierre a continué à faire vivre l'esprit de Tibérine une fois au Maroc, au contact des habitants musulmans du pays.
Non seulement il l'a fait vivre, mais il l'a prolongé et développé. C'est-à-dire que les relations avec les gens se traduisaient régulièrement par des invitations dans des familles musulmanes, en particulier pendant le Ramadan. Ce que n'avaient pas vécu vraiment les frères de Tibérine. Ils avaient de très bonnes relations, très très bonnes, mais par exemple, ce signe de l'hospitalité de la table, les moines de Midelt le vivent de manière plus intense aujourd'hui qu'hier à Tibérine. Et on le voit bien quand on se promène un petit peu dans le village et le quartier. Bon, évidemment, on est les seuls étrangers. Et tout de suite, on se met à parler des frères. Et pour eux, pour la population qui environne le monastère, ce sont vraiment des frères.
Des propos recueillis par Claire Riobé. Et puis au Sri Lanka, les fidèles catholiques inquiets après l'arrestation d'un prêtre, le père Cyril Fernando, demandait publiquement et avec insistance la vérité sur les attentats de Pâques de 2019. Attaque, rappelez-vous, commise contre 3 églises et un hôtel qui avait fait plus de 200 morts. Un petit groupe de prêtres et de fidèles ont organisé un sit-in pacifique devant les locaux de la police de Colombo pour la libération du père Fernando. Ses flèches, ses arêtes blanches et sa façade art déco mélangée à des influences orientales sont devenus un élément à part entière du paysage de la capitale marocaine. La cathédrale Saint-Pierre de Rabat fête ses 100 ans. Pour célébrer cet anniversaire, le diocèse a lancé un grand jubilé qui s'est ouvert le week-end dernier par une messe célébrée par le cardinal Cristobal López Romero, l'archevêque de la ville, et qui s'achèvera le 29 juin prochain en la solennité des Saint-Pierre et Paul. Les mois prochains seront rythmés par des rencontres culturelles et des conférences. Le père Daniel Nourissa, le curé de la cathédrale, revient ce matin sur le sens de ce jubilé et sur ce que représente cette cathédrale pour de nombreux Marocains, au-delà même de la communauté catholique. Une cathédrale qui a accueilli le pape François le 21 mars 2019 lors de son voyage apostolique au Maroc.
Nous avons voulu tout à la fois montrer que c'est le symbole de la communion diocésaine, de l'unité diocésaine, que c'est une trace de l'histoire de la présence des chrétiens au Maroc, en tout cas le renouveau de cette présence il y a une centaine d'années. C'est aussi honorer le patrimoine marocain, parce que nous avons là conviction que cette église n'appartient pas à l'église, elle appartient aussi au peuple marocain, d'autant plus que le terrain sur lequel elle est construite a été donné par des tribus marocaines pour que l'église puisse édifier une église paroissiale dans la toute nouvelle ville moderne de Rabat. Tout s'est renouvelé grâce à la visite du Saint-Père. Il est venu à la cathédrale pour rencontrer les prêtres, les religieux, religieuses et les personnes des autres confessions chrétiennes. Mais la télévision marocaine a diffusé intégralement la visite du pape, tous les événements qui ont marqué la visite du Saint-Père. Et du coup, nos amis marocains ont pu rentrer dans cette église déjà par la télévision. Nous avons décidé, l'équipe pastorale de Rabat, à partir de ce moment-là, d'essayer d'ouvrir au maximum ce lieu de prière, cette maison où tous les enfants de Dieu ils puissent se sentir chez eux. L'église, c'est pas un bâtiment, c'est une communauté, pour accueillir ceux qui passent.
Que représente cette cathédrale pour les habitants de Rabat et pour les Marocains de manière plus générale ?
Il se trouve que par les hasards de l'aménagement du territoire, notre cathédrale est située au croisement des tramways de la ville de Rabat, extrêmement fréquentée, à proximité d'un lycée et d'un collège, et innombrables sont les personnes, et particulièrement les jeunes, qui rentrent dans l'église pour regarder, par curiosité, pour se recueillir un petit moment, profiter du silence, parfois aussi pour recharger leur téléphone, tout est possible. Mais du coup, beaucoup de gens viennent et un certain nombre ont la curiosité de nous demander « mais c'est quoi ? Où est-ce que je suis ? Pourquoi c'est comme ça ?» etc. Ce qui permet d'engager un petit dialogue interculturel, interreligieux, si j'ose dire, avec ces personnes-là.
Que reste-t-il de la visite du pape François il y a bientôt 3 ans au Maroc et en particulier dans cette cathédrale de Rabat ?
Qu'est-ce que ça a changé ? Je crois d'abord d'avoir une église qui est un peu plus visible. Nous avons vu arriver du courant un certain nombre de prêtres qui sont proposés pour servir ici. Notre institut œcuménique de théologie Al-Mouafaqa qui forme sur le dialogue interreligieux a plus d'étudiants. Et puis, je vous dis, les personnes marocaines se sont plus emparées de l'existence de ce bâtiment, ce signe d'église. Et par exemple, il y aura plusieurs conférences pendant l'année du centenaire données par des personnes marocaines qui sont fières d'avoir cet édifice. Pour nous, nous avons retenu surtout, sous l'impulsion de notre évêque, le propos du Saint-Père qui disait « Vous êtes les sacrements de la rencontre de Dieu avec les hommes ». Et je crois que ça nous a beaucoup stimulés à nous ouvrir plus à la société marocaine, aux gens qui habitent là, pour essayer de nouer des relations, servir ensemble, quelquefois prier ensemble, dialoguer en tout cas, nous respecter mieux, nous appeler les uns les autres à vivre ce à quoi Dieu nous appelle, là où il a choisi de nous rencontrer, dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, le père Daniel Nourissa, curé de la cathédrale de Rabat, qui fête donc son centenaire, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute fidèle. On se retrouve à 13h pour une nouvelle édition en langue française. D'ici là, bonne matinée à tous.